Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Les défis de Joe Biden en Amérique latine sont immenses, tant il s'agit pour le nouvel occupant de la Maison-Blanche de reconquérir le continent après une présidence Trump qui a oscillé entre humiliations, menaces et autres injures sur fond de grand délaissement. Délaissement qui a accru les intérêts chinois et russes. L'Amérique latine, zone d'influence traditionnelle de la première puissance mondiale, est aujourd'hui devenu un terrain d'affrontement stratégique majeur avec la Chine, rivale systémique des États-Unis. Regard sur les projets de Joe Biden et de son administration pour cette région avec nos invités en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère à Grenoble. Célia Imelfarb, économiste, maître de conférence honoraire à Sciences Po Grenoble et membre du conseil d'orientation stratégique de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Bonjour.
Bonjour.
Par téléphone, Olivier Compagnon, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut des hautes études d'Amérique latine de l'Université Sorbonne Nouvelle et au Centre de recherche et de documentation des Amériques, le CREDA, également co-rédacteur en chef des Cahiers de l'Amérique. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, auteur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui d'une note d'analyse pour le compte de l'AFD intitulée « États-Unis, Amérique latine, quelle perspective après l'élection de Joe Biden ?» Bonjour.
Bonjour.
Curieux paradoxe, j'évoquais en introduction combien Donald Trump avait délaissé l'Amérique latine tout en souhaitant la contrôler, en plaçant des hommes à lui à la tête d'institutions régionales comme l'OEA, l'Organisation des États d'Amérique, et la BID, la Banque interaméricaine de développement. Et parmi les intervenants du colloque que vous organisiez il y a quelques jours à l'IRIS, Christophe Ventura, Luis de la Calle, ancien sous-secrétaire aux négociations commerciales internationales du ministère de l'économie du Mexique, expliquait que les gouvernements de gauche de la région préfèrent voir les républicains au pouvoir, car ils sont à leurs yeux plus prévisibles. En tout cas, s'il y a un président nord-américain qui connaît l'Amérique latine, c'est Joe Biden, qui a une grande ou en tout cas profonde sensibilité vis-à-vis de ce continent. Mais l'élection de Joe Biden n'a curieusement pas été accueillie avec grand enthousiasme. Est-ce qu'il va parvenir à faire changer d'avis les leaders latino-américains ?
Il est vrai que Joe Biden est de loin le président américain qui connaît le mieux l'Amérique latine de tous ses prédécesseurs, vraiment tous. Il a effectué déjà dans sa vie une quinzaine de voyages officiels en mission en Amérique latine. Alors, son nom est associé avant même sa présidence à des choses très importantes dans la région depuis le début des années 2000. Je pense par exemple au plan Colombie, celui-là, et puis sa deuxième version sous Obama qui s'appelait le plan Paix Colombie, qui était un peu la continuité du premier pour stabiliser le pays, lutter contre le narcotrafic, etc. Il est associé aussi à la doctrine Obama sur la normalisation des relations avec Cuba qui intervient en 2014 avec Raúl Castro et Barack Obama. Enfin bref, on pourrait démultiplier les exemples. Il a été beaucoup en Amérique latine en tant que président de la commission des affaires étrangères du Sénat, puis comme vice-président ensuite d'Obama. Bon, mais est-ce que cette élection est une bonne nouvelle pour les latino-américains? C'est vrai qu'on peut pas dire qu'il y a eu... Alors tous les présidents, presque tous, à part López Obrador, le Mexicain, et Bolsonaro, le Brésilien, tous les autres présidents, et même le Cubain et le Vénézuélien, ont salué la victoire de Biden tout de suite. On se rappelle des événements et de la confusion de l'élection américaine. Tous ont salué la victoire de Biden et l'ont tout de suite fait part de leur disponibilité pour discuter de tous les sujets. Je pense en particulier à Cuba et au Venezuela. Bolsonaro et López Obrador, non. Ils font partie des derniers, même après Vladimir Poutine d'ailleurs, à avoir reconnu la victoire de Biden. Donc, on se regarde un peu en chien de faïence et on attend de voir aussi surtout ce que sont les dispositions de Biden et ce qu'il va proposer aux latino-américains et ce dont on va parler ensemble aujourd'hui.
Donc le Mexique et le Brésil, dont il sera précisément intéressant de se poser quelques instants pour voir quelles sont un peu les circonstances et le contexte. En tout cas, Célia Imelfarb, est-ce qu'il y a des attentes particulières aujourd'hui de l'Amérique latine vis-à-vis de Joe Biden? Et si oui, lesquelles?
Oui, bien sûr, il y a des attentes très très spécifiques, si vous voulez, concernant Cuba. Est-ce que les sanctions vont continuer ou pas? Est-ce qu'on ouvrira le chemin vers la fin de l'embargo? Mais ça ne dépend pas de Joe Biden, ça dépend de la Chambre des représentants et du Sénat, bien sûr. Ensuite, concernant le Venezuela, il y a une attente que puisse Joe Biden trouver un médiateur au sein de l'Amérique latine pour pouvoir dialoguer avec Maduro. et essayer, peut-être d'une manière fructueuse, mais tout au moins essayer une négociation pour une transition démocratique. Il y a aussi un certain espoir que les cartes vont se rebattre au niveau économique aussi. Et là, on aura aussi l'occasion de discuter sur la présence de la Chine très forte en Amérique latine et comment Joe Biden peut ou pas réséduire l'Amérique latine à ces niveaux-là. Voilà. Mais concernant ce que vous demandiez, Marie-France, est-ce que l'Amérique latine est contente de l'arrivée de Joe Biden? Je dirais que dans l'ensemble, oui. Mais ponctuellement, López Obrador a été très réticente. Et je crois qu'en Argentine, par exemple, Cristina Kirchner va être très réticente parce que l'Argentine est complètement alignée à la Chine à l'heure actuelle. Voilà.
Et elle n'est pas le seul pays d'Amérique latine à l'être. Alors, parmi les grandes attentes, il y a aussi, Olivier Compagnon, la question des migrations sur laquelle on va passer un certain temps dans cette émission. L'administration Biden a déjà annoncé la levée immédiate des accords sur l'immigration signés par l'administration Trump avec le Salvador, le Honduras et le Guatemala. Anthony Blinken parle des premières pierres d'un nouveau partenariat dans la région posé par Joe Biden. Alors, selon ces accords signés en 2019, les demandeurs d'asile se voyaient contraints de retourner dans ces pays dans l'attente de leur audition par un tribunal américain. Et puis, Joe Biden a également interrompu la construction du mur lancé par Donald Trump. La question migratoire, c'est priorité d'une nouvelle occupante de la Maison-Blanche, Olivier Compagnon.
Alors, je pense que c'est vraiment une priorité, d'autant plus que nous sommes dans le contexte de la crise liée à la pandémie, que voilà, les économies latino-américaines vont mal, que toute une série de travers des sociétés, alors centra-américaines, notamment du triangle nord de l'Amérique centrale, sont aggravées par la crise, et que donc les perspectives à court terme de mouvements migratoires sont évidentes. Et d'ailleurs, on a des caravanes, on a eu il y a quelques semaines des caravanes parties de Honduras qui finalement ont été repoussées au Guatemala. Mais enfin, évidemment, il y a un enjeu très fort, et d'autant plus fort que la politique de Trump a été, j'allais dire, bêtement brutale et en aucun cas susceptible de résoudre les choses. Alors, pour l'instant, la question migratoire a été très présente dans la campagne de Biden, et il y a deux grandes directions, je dirais, à la mutation, indépendamment du symbole de l'arrêt du mur. C'est un symbole. Il y a deux grandes directions. D'abord, il y a, je dirais, un horizon de prise en charge et de légalisation progressive des plus de 10 millions aujourd'hui de latinos qui sont clandestins aux États-Unis. Donc il y a tout un plan qui a été présenté, programmé par Biden pendant sa campagne sur le temps long de son mandat pour parvenir à une régularisation progressive. D'autant que ces gens-là vivent aux États-Unis, travaillent aux États-Unis, etc., mais clandestinement. Et puis, d'autre part, il y a l'idée d'aller traiter, j'allais dire, le mal à sa source, si on considère ça comme un mal, en essayant de promouvoir des stratégies de co-développement, c'est-à-dire, en gros, de répondre aux problèmes auxquels sont confrontées les populations, notamment centra-américaines, c'est-à-dire problèmes, en gros, économiques et sociaux, mais aussi problèmes de violence et d'insécurité. Donc, en gros, de promouvoir des politiques de co-développement, ce qui, je veux dire, quand on prend la question migratoire à l'échelle, au-delà de l'hémisphère américain, à l'échelle globale, est évidemment le bon sens pour traiter ça. Maintenant, la vraie question, ça va être quelle va être l'effectivité de ces plans dans les 4 années qui viennent, parce que pour rebondir aussi sur la première question que vous posez, bien entendu, l'ambiance générale est plutôt d'accueillir favorablement Biden après les années noires et les années Trump, mais en Amérique latine, on a aussi quand même la conscience très forte que ça fait maintenant une trentaine d'années, en fait depuis la fin de la guerre froide, que les États-Unis se sont un peu détournés de l'Amérique latine, qu'il n'y a plus grand-chose à attendre, qu'il y a de nouveaux partenaires, la Chine, mais aussi la Russie. Et finalement, on dit Trump s'est pas intéressé à l'Amérique latine, c'est vrai, mais est-ce que Obama s'y est intéressé? Pas vraiment non plus, à part la normalisation des relations cubaines. Dans ses mémoires, Obama, il parle pas du tout de l'Amérique latine, on voit bien qu'il s'en moquait complètement. Et est-ce que finalement, ce nouveau mandat va aboutir à un tournant? Rien n'est moins sûr.
Alors effectivement, et toujours dans le colloque que vous organisiez, Christophe Ventura, Louise Delacaillé évoquait l'idée que l'Amérique latine, c'était la priorité numéro 30 de Joe Biden aujourd'hui. Je rebondis sur ce que vient de dire Olivier Compagnon à propos des migrations et le désir de Joe Biden de faire du co-développement. Il veut casser cette mécanique de l'immigration illégale en travaillant avec certains pays d'Amérique centrale sur les causes du départ en incitant les demandeurs d'asile à rester chez eux dans les pays les plus proches de leur lieu de départ. C'est un chemin étroit pour Joe Biden, mais sera-t-il le premier président à précisément se poser sur la question du pourquoi ces migrations ?
Alors, je crois qu'il faut resituer ça dans le fait que la question migratoire, en particulier du point de vue de Joe Biden et des États-Unis en général, et c'était le cas de Trump en fait, mais sur un mode différent, c'est une question de politique intérieure avant toute chose. Et c'est ça qui intéresse Biden dans son agenda latino-américain avant toute chose, c'est avec les latino-américains régler des problèmes qui sont en fait des problèmes de politique intérieure pour les États-Unis à travers un type de méthode qui est du multilatéralisme à la place de disons la répression migratoire et l'unilatéralisme de Trump. Lui, il veut une approche multilatérale, il veut faire ça sous la forme d'un agenda qu'il espère disons proposer comme étant positif, inclusif avec les États, donc le Mexique, les pays du triangle nord et un peu la Caraïbe aussi, parce qu'il y a le cas d'Haïti par exemple. Eh bien, il propose de co-gérer la question avec eux, avec les financements américains, les administrations américaines compétentes mobilisées sur le terrain, avec aussi la demande que les États co-financent une partie des plans que les Américains proposent justement pour éradiquer, comme il dit, les racines, c'est le mot qu'il emploie à Biden, de ce qui est au départ des migrations, la violence, la pauvreté, les inégalités, la corruption, la déficience des institutions publiques, l'impunité judiciaire, enfin tout ce genre de choses. Il propose d'éradiquer ça dans l'espoir que ça va tarir finalement les flux de migrants centra-américains vers les États-Unis. Alors on pourrait discuter sur le fond si c'est une bonne stratégie, parce que moi je pense que en fait ça marche pas vraiment, puisqu'on voit bien que dans les migrations en général c'est plutôt les gens qui sont diplômés, les classes moyennes des pays de départ qui partent, ceux qui ont les moyens de le faire, pas les plus pauvres en réalité. Donc plus on va vers des choses qui vont développer les sociétés et créer finalement des classes moyennes, ce que dit vouloir faire Biden dans son plan, eh bien en réalité on voit que c'est ces populations-là qui partent vers les pays d'abord voisins en général, et puis sinon les pays plus au nord. Mais ça, c'est une discussion de fond. Alors, en tout cas, il veut proposer ça, parce que quelle est la discussion pour Biden ? On sait que la communauté latino-américaine aux États-Unis, c'est 60 millions de personnes. Il y a dans ces 60 millions, près de 40 millions qui sont d'origine mexicaine, mais aujourd'hui, c'est les centra-américains qui deviennent la composante la plus importante.
Hondurien, salvadorien.
Voilà, les pays qu'on appelle du triangle nord, donc Salvador, Honduras, Guatemala. Mais à un moment donné aussi, et c'est là que ça devient une question de politique intérieure, à un moment donné où on sait que la composition de la population américaine est en train de changer relativement. Et c'est toute la confrontation avec les suprémacistes, avec le camp de Trump, sur le fait de la peur, en quelque sorte, d'une population où les blancs vont devenir minoritaires. Et c'est le cas. C'est ce qui va se passer aux États-Unis. C'est d'ailleurs le seul pays au monde où ça va se passer dans les années qui viennent. Donc voilà l'arrière-fond de la politique migratoire de Biden. Et il veut gérer ça d'une manière multilatérale. C'est la différence avec notre ami Trump, si je puis dire. Mais ne nous trompons pas. L'idée, c'est vraiment d'essayer de freiner les flux. Et puis c'est sur ceux qui sont sur place, une intégration aux États-Unis en leur proposant un chemin vers la citoyenneté américaine d'ici à 8 ans. C'est ça son plan qu'il propose pour 11 millions de clandestins en fait qui sont aujourd'hui aux États-Unis. Il propose pas ça pour ceux qui arriveraient après. Ça concerne que ceux qui sont sur place à partir du 1er janvier 2021. Les autres, ils auront pas le plan Biden. Mais ceux qui sont aux États-Unis l'auront. Et ça veut dire que dans 8 ans, vous aurez potentiellement 11 millions de centra-américains ou de latino-américains qui sont aux États-Unis qui deviendront américains, soit avec la carte de résidence, soit avec la citoyenneté, et qui pourront voter. C'est ça que ça veut dire. Et qui voteront certainement pour le camp qui a régularisé finalement leur situation aux États-Unis. Et donc Biden fait ça dans l'optique aussi que dans quelques années, ça influe le rapport de force avec les républicains. C'est tout ça qui est en jeu dans son plan, en réalité.
Alors je le disais, Célia Imelfarb, c'est un chemin étroit pour Biden. D'une part, pour des questions de politique intérieure, comme l'a évoqué Christophe Ventura, et aussi éviter que sa politique ne suscite des attentes immenses en Amérique centrale. On peut rappeler que selon les derniers chiffres, plus de 70 000 personnes sont encore arrêtées chaque mois à la frontière avec le Mexique. Alors Célia Imelfarb, votre commentaire et votre vision de cette politique migratoire prévue par Joe Biden ?
Dans les déclarations qu'il a faites, effectivement, il voudrait régulariser les 11 millions des sans-papiers d'origine latino-américaine aux États-Unis et donner des papiers immédiatement aux Dreamers, que c'est les jeunes latino-américains ou les jeunes immigrés qui sont arrivés aux États-Unis avec leurs parents et qu'ils ont été donc élevés aux États-Unis. Donc ça, il le régularisera, mais il faut aussi que le Sénat vote cette mesure. Ensuite, pour le reste, il veut aussi ouvrir le droit d'asile, qui n'est pas la même chose que la gestion des immigrés, si vous voulez. C'est les droits d'asile pour des pays ciblés, en danger, etc., de non-respect des droits de l'homme. Concernant l'Amérique centrale, il a déjà fait un programme de développement en Honduras. Donc, il a une certaine expérience de qu'il peut effectivement proposer que ces pays-là puissent, notamment l'Amérique centrale, puissent se développer sans avoir besoin, entre guillemets, d'aller aux États-Unis. C'est un petit peu la théorie de Jacques Delors par rapport aux pays européens lorsque le mur de Berlin est tombé et on a construit l'Europe avec l'Europe, les PECO, les pays de l'Est. Jacques Delors disait, il faut les stabiliser, leur donner tous les moyens pour se développer et qu'ils ne viennent pas en Europe occidentale. C'était ça et Jacques Delors n'était pas xénophobe. Donc, derrière l'idée, c'est arrêter les flux, effectivement, stabiliser ceux qui sont déjà aux États-Unis, ouvrir le droit d'asile et surtout, il y a 600 000 jeunes Dreamers, donc il va les stabiliser, effectivement, par des papiers. Beaucoup des immigrés cubains et vénézuéliens qui sont notamment en Floride, ont voté Trump majoritairement. La Floride n'a pas basculé vers Biden. Et là, ça pose un certain problème parce que Biden ne respectera pas, si vous voulez, ce que les Cubains nés à Cuba, sont américains, maintenant états-uniens, ou les Vénézuéliens sont en Floride. Il va peut-être passer outre pour les négociations pour une transition démocratique et même pour renouer avec Cuba, avec l'optique aussi d'une démocratisation. Voilà.
Alors, on l'a compris, Olivier Compagnon, pour terminer cette première partie d'émission, donc une volonté du côté de Biden de reconnaître la centralité de la question migratoire et puis un nouveau rapport à l'Amérique centrale et les Caraïbes. L'Amérique centrale, ça concerne aussi la partie sud du Mexique, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce que l'on sait de la vision qu'a Biden de sa relation avec le Mexique et avec son président ?
C'est un sujet compliqué parce que, alors d'abord, c'est un sujet migratoire. La question migratoire est aussi une question mexicaine. Les Mexicains ne souhaitent pas. On sait qu'il y a, il y a eu au cours des précédentes années des caravanes centra-américaines stoppées à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, se retrouvant sur le territoire mexicain, devant être prises en charge par l'État mexicain. Et ça, c'est un problème pour le Mexique. On sait aussi que d'ailleurs, ces migrants sont victimes des passeurs, des narcotrafiquants, qu'il y a énormément de victimes. Il y a encore eu, il y a quelques jours, une fosse commune de migrants centra-américains retrouvés à la frontière. Je disais il y a peu de temps que le Mexique, c'était la Méditerranée des Amériques. C'est là que les migrants meurent. Et donc, c'est d'abord, le premier élément de la relation entre le Mexique et les États-Unis, c'est aussi cette question migratoire. Et donc, on a répondu en partie à cela là, dans nos précédentes interventions. Et je partage ce qui a été dit. Il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions. C'est-à-dire que je partage ce que disait Christophe Ventura. C'est d'abord un problème de politique intérieure, etc. Il ne faut pas oublier quand même ce qu'a été la politique migratoire d'Obama, qui a multiplié les expulsions. Et je pense qu'on aura aussi des expulsions et des blocages très sévères d'immigration sous Biden, au-delà de ce plan de régularisation et d'accès à la citoyenneté. Après, évidemment, il y a la relation économique. Et là, évidemment, il y a beaucoup de tensions, puisque alors il y avait eu la renégociation des accords de l'ALENA sous Trump, mais il y a quand même, je dirais, toute une série de revendications aujourd'hui de López Obrador, notamment sur, non pas des projets de nationalisation à proprement parler, mais disons, cette idée d'une souveraineté économique avec des références aux grandes heures du président Cárdenas dans les années 1930, qui avait nationalisé le pétrole, etc., qui crée aujourd'hui beaucoup de tensions aussi dans la relation économique qui, il faut toujours le rappeler, est une vraie relation d'interdépendance, désormais. Et là, je pense qu'il y a un espace de tension au-delà, je dirais, de possibles dissensus idéologiques. Il y a des tensions économiques qui sont à attendre très fortement avec le Mexique.
Vous parliez des tensions et des pressions, juste pour signaler que Joe Biden risque bien de faire pression sur AMLO précisément pour modérer ses politiques de soutien au secteur énergétique public qui limite l'accès des investisseurs privés. On vous retrouve, Olivier Compagnon, ainsi que Célia Imelfarb et Christophe Ventura, après le journal. À tout de suite.
ce lundi sur RFI, de vive voix, Pascal. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les défis de Joe Biden en Amérique latine. Nous retrouvons nos invités en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère à Grenoble. Célia Imelfarb, économiste, maître de conférences honoraires à Sciences Po Grenoble et membre du Conseil d'orientation stratégique de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Par téléphone, Olivier Compagnon, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine de l'Université Sorbonne Nouvelle et au Centre de recherche et de documentation des Amériques, le CREDA, également co-rédacteur en chef des cahiers des Amérique. Et en studio, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, auteur pour ce qui nous intéresse aujourd'hui d'une note d'analyse pour le compte de l'AFD intitulée « États-Unis, Amérique latine, quelle perspective après l'élection de Joe Biden ?» Nous l'évoquions rapidement dans la première partie de l'émission, ce souhait de Joe Biden aujourd'hui d'avoir une politique plus proactive en Amérique latine. On a abordé la question des migrations et de la centralité peut-être de la politique américaine en Amérique centrale. On va descendre vers le cône sud. Vous l'évoquiez, Célia Imelfarb, toujours dans la première partie de l'émission. Il y a deux dossiers sensibles, peut-être davantage, mais on va se concentrer sur ces deux-là pour l'instant. C'est Cuba et le Venezuela. Donald Trump, par Mike Pompeo, a fait revenir Cuba sur la liste des pays terroristes avant de quitter le pouvoir. Cuba et le Venezuela, deux priorités pour Joe Biden sur des dossiers, bien évidemment, différents, mais liés d'une certaine manière également.
Bien sûr, bien sûr. Donc, concernant Cuba, la question de Joe Biden va dans une lignée, si vous voulez, d'une historique entre les États-Unis et Cuba. Je pense que la nouvelle administration des États-Unis, par Anthony Blinken au département d'État, il vient d'être nommé, ne sortira Cuba parmi les pays terroristes, de la liste des pays terroristes, et peut-être enverra à nouveau une délégation diplomatique à l'ambassade, parce qu'il y a eu un retrait des personnels diplomatiques, vous vous souvenez, l'affaire acoustique qui existait à La Havane. En même temps, il y a une pression du secteur agricole aux États-Unis pour vendre davantage des produits de nourriture et agricole vers Cuba. Donc économiquement, probablement il y aura un rapprochement et peut-être les sanctions contre les touristes américains et autres seront levées et peut-être aussi, chose que Trump a fait, c'est interdire à Western Union des virements familiaux qui arrivaient à Cuba. Ça, c'est un thème très important parce que pour Cuba, c'est le premier revenu, la première source de revenus dans l'île, plus que le sucre, plus que les biotechnologies, plus que le tourisme. Donc ça, c'est un thème très très important qui peut soulager un peu les discussions entre Cuba et les États-Unis. Par ailleurs, le Venezuela, c'est un thème, je dirais, presque plus complexe parce que dialoguer avec Maduro est très très compliqué et c'est pour ça que j'ai parlé qu'il faut qu'il y ait certains présidents dans l'Amérique du Sud, plus modérés, qui puissent entamer des dialogues entre les deux parties, c'est-à-dire d'envisager une transition démocratique, qu'il y ait des élections, qu'on puisse travailler dans ce sens-là. Mais Anthony Blinken a dit récemment qu'il reconnaissait Guaido comme président du Venezuela et qu'il se battra contre la violation des droits de l'homme. La nouvelle administration de Joe Biden adhère au rapport Bachelet des Nations Unies sur la violation des droits de l'homme au Venezuela. Alors, ça, c'est concernant ces deux pays.
Alors, Christophe Ventura, concernant Cuba, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura un retour à une politique de normalisation, hein, celle-là même engagée par Obama vis-à-vis de la Havane. Alors, plusieurs questions. Comment défaire la décision prise par Trump à la toute fin de son mandat que j'évoquais? Et puis, paradoxe aussi pour Cuba, la victoire de Biden n'est pas forcément une bonne nouvelle. La Havane aime bien une posture un peu de victime qui vient renforcer le régime. Alors, il y aura en avril prochain le 8e congrès du Parti communiste cubain. Est-ce que avec Joe Biden, une nouvelle partie d'échec entre Cuba et Washington s'engage?
Je pense, oui, parce qu'il est clair que l'avenir de Cuba, enfin, du point de vue des autorités cubaines, dépend en partie de l'évolution de la relation avec Washington, parce que c'est ça qui détermine beaucoup de choses de leur point de vue. Alors, en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que c'est vrai que Biden, bon, on sait, il a dit ce qu'il voulait faire avec Cuba, il veut revenir, une fois de plus, à la doctrine Obama de 2014, dont il était l'un des co-artisans, par ailleurs. Donc, il veut revenir à ça. Donc, le mot a été lâché, peu après son élection, l'administration Biden annonce qu'elle va réviser ses relations avec Cuba. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement plusieurs choses à différents moments. À court terme, dans les quelques mois qui vont venir, il est probable que Biden, un peu à l'instar d'Obama à l'époque, commence par assouplir en fait les effets de l'embargo sur Cuba. Il va se positionner comme maintenant l'embargo sur Cuba, mais en assouplissant un certain nombre de dimensions de cet embargo. Alors, ça a été dit par Cécilia, on va avoir certainement un assouplissement en matière d'autorisation des Américains et des Cubano-Américains d'aller voyager à Cuba. Alors, sous réserve de voir ce que nous prépare l'évolution de la crise sanitaire, par ailleurs. Ça, c'est un point. Mais en tout cas, il va permettre plus ça. Il va permettre l'envoi de fonds, on l'a dit aussi, ce qu'on appelle les remessas en espagnol, de fonds vers Cuba. Ça, oui. On va avoir aussi... très important, même fondamental en réalité, l'ouverture, le retour d'une section consulaire à La Havane. Vous savez peut-être que Trump l'avait mis au Guyana, la section consulaire. Donc ça veut dire que pas de passeport, pas de visa, impossibilité de voyager entre La Havane et la Floride par exemple. Donc retour d'une section consulaire, ça, ça va être fait. À plus moyen terme, effectivement, je crois qu'il va y avoir la question de la remise en cause du titre 3 de la loi Helms-Burton. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est le droit pour la justice américaine de prendre des actions contre toute entreprise du monde, française, espagnole, ce que vous voulez, parce que ces entreprises ont un commerce ou une transaction avec Cuba. Et donc ça, qui tue littéralement, qui asphyxie l'économie cubaine et qui pèse énormément sur les investisseurs étrangers. Donc je crois que Biden veut revenir là-dessus. Et puis enfin, retirer effectivement Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme. Mais ça va être plus compliqué. Ça va demander du temps parce que ça se décide au Congrès.
Voilà.
Et au Congrès, rappelons que Joe Biden ne dispose que d'une voix d'avance au Sénat. Et que le lobby anti-Cuba est très puissant chez les Républicains, mais aussi chez une partie des démocrates. Et que pour Biden, ce qui va être un peu le frein et l'accélérateur dans cette affaire-là, c'est ce qui va être le plus opérationnel pour lui, politiquement en interne, encore une fois, en perspective des élections de mid-term qui vont arriver vite dans 2 ans. Donc, il a perdu la Floride, de peu, mais il l'a perdu. Il ne peut pas se permettre, Biden non plus, si vous voulez, de se mettre à dos tous les Républicains et une partie des démocrates sur l'affaire cubaine. Donc, c'est ça qui va nous donner un peu le tempo de l'avance qu'il pourra faire sur cette question-là. Donc, on n'est pas sorti d'affaire dans la complexité de la relation cubano-américaine.
Alors, je voudrais qu'on détaille un tout petit peu la question du Venezuela et qu'ensuite on aborde celle du Brésil. Olivier Compagnon, comment Washington et Caracas vont-ils pouvoir dénouer la pelote de laine qui a eu tendance à grossir ces dernières années entre les deux capitales ?
Alors, autant je partage le relatif optimisme qu'on peut avoir sur l'avenir des relations entre Washington et La Havane, autant entre Washington et Caracas, c'est loin d'être évident. D'abord parce que, effectivement, Blinken a tout de suite rappelé qu'il considérait toujours Guaido comme un interlocuteur légitime, alors même que l'Union européenne vient de cesser de le faire. Donc là, on voit quand même que la nouvelle administration ne change pas fondamentalement de ligne. Et d'autre part, je ne crois pas que, malgré l'arrivée des démocrates au pouvoir, Caracas soit prêt à accepter un rôle central de Washington dans la négociation d'une éventuelle transition. Alors, au fond, qu'est-ce qui peut se jouer dans les mois qui viennent autour de la question vénézuélienne ? Au fond, c'est d'abord la question des sanctions économiques et de la nature de ces sanctions. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui, depuis Washington, lever entièrement les sanctions. En revanche, peut-être en modifier la forme, parce qu'aujourd'hui, quand même, le gros problème, c'est que ces sanctions, elles pèsent d'abord sur la population vénézuélienne qui est dans des conditions de vie au quotidien absolument catastrophique. Et là, je pense qu'il pourrait y avoir un signe assez intéressant de transformer cette politique pour certainement ensuite continuer à mener des sanctions telles qu'elles sont menées par ailleurs, contre des leaders du régime, etc., etc. Ça, c'est une évolution possible. Mais à titre personnel, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une mutation majeure dans les mois qui viennent de la relation entre les deux pays.
Alors, on parle du Mexique. Je ne sais pas si c'est vous, Olivier Compagnon, qui souhaitez poursuivre, ou Célia Imelfarb. Sur le Brésil, son président, M. Bolsonaro, appelait aussi le Trump tropical. C'est vrai qu'il y avait une bonne entente et des caractères assez semblables entre Donald Trump et Bolsonaro. Bon, la question qui se pose pour Joe Biden, c'est peut-être sur l'environnement qu'un terrain d'entente peut éventuellement être trouvé entre Brasilia et Washington à propos de l'Amazonie, mais sinon, pour le reste, beaucoup de choses séparent Jair Bolsonaro de Joe Biden.
Oui, oui. D'abord, je vais traiter sur l'aspect environnemental qui est la première priorité du gouvernement de Biden pour l'Amérique latine. Il considère que l'Amazonie est un bien universel, c'est-à-dire qu'il nous appartient à tous. Et Bolsonaro dit que c'est dans les territoires brésiliens, bien sûr, certes, mais c'est un bien universel. Donc, il pense surtout que le Brésil puisse aussi, doit exiger de revenir à la COP21, de le respecter. C'est pas que le Brésil s'est retiré de la COP21, mais de le respecter. Et ne pas envahir le Venezuela par la déforestation et par la culture sauvage, donc des produits agricoles avec des produits effectivement qui ne sont pas autorisés, de Monsanto, etc., etc. Et ça, c'est très important, et le respect des populations autochtones. Donc, Biden est très, très clair sur ces thèmes-là. Ensuite, il y a le problème économique entre le Brésil et les États-Unis. C'est que les États-Unis, qui sont encore majoritaires dans les exportations et importations, représentent de moins en moins, et la Chine de plus en plus. La Chine s'approche des, pour le Brésil, pour le Chili, l'Uruguay, et le premier fournisseur, le premier clients. Donc ça, c'est extrêmement important parce que il va falloir que les États-Unis reviennent à nouveau dans les terrains économiques en Amérique du Sud, notamment Brésil, Argentine, Chili et Pérou. Ça, c'est le deuxième problème, l'aspect économique pur. La présence de la Chine. La Chine est devenue le banquier de l'Amérique latine. Les banques chinoise prête plus que la Banque interaméricaine et la Banque mondiale ensemble. Et ça, c'est pas une petite donnée. Et dans la dernière visite de Xi Jinping en Amérique du Sud, il disait, on envisage 250 milliards d'investissements directs de la Chine en Amérique latine et 500 milliards de commerce extérieur. Or, aujourd'hui, pour le Brésil, c'est la Chine le premier interlocuteur commercial. Ça, c'est, me semble très important. Il y a une question aussi idéologique et géopolitique. Bolsonaro est un populiste de droite. Donc, il représente d'une manière assez proche, si vous voulez, bien sûr, la pensée des Trump, le protectionnisme économique, le suprémacisme, le racisme et la xénophobie. Donc, ça va être un point d'achoppement important. Les élections au Brésil seront dans 2 ans. Donc, il faut voir aussi comment politiquement le Brésil va se recomposer pour faire un front contre Bolsonaro. Mais les États-Unis doivent être à nouveau présente économiquement et aussi une présence, je dirais, culturelle, parce que la Chine a fait du soft power et du hard power en Amérique du Sud, effectivement.
Alors, les États-Unis ne sont plus en position de force, Christophe Ventura, en Amérique latine. Célie Meffarb le disait, il est nécessaire que Washington revienne sur le terrain économique. Elle parlait des banques chinoises. La Chine, grand acheteur de matières premières, et puis grand investisseur dans le sous-sol latino-américain.
Oui, tout à fait. De toute façon, ça, c'est une dynamique irréversible. Il n'y aura pas de retour des États-Unis en Amérique latine, a fortiori dans le cône sud, en Amérique du Sud, comme avant les années 2000. Ça, c'est à mon avis terminé. Parce qu'effectivement, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est la Chine. Voilà. Alors, la Chine, pendant 20 ans, a occupé le terrain en Amérique latine et surtout du Sud, précisément sur la question de l'exploitation de l'importation des ressources naturelles sud-américaines. Donc des sols, tous les hydrocarbures, les mines, enfin tout ce que vous voulez, le soja, les produits agricoles, etc. vont 70% de ce qu'exportent les Sud-Américains, c'est des céréales en fait, hein, aux Chinois, en particulier le soja. Donc les Chinois sont là, ils ont financé des infrastructures, ils continuent de le faire, ils vont continuer à le faire. Et en plus, maintenant, il y a un nouveau virage qui est en train d'être perceptible, c'est que les Chinois, ayant compris que aussi ça crée des résistances, des problèmes avec beaucoup d'organisations, de mouvements sociaux et même de gouvernements sud-américains, eh bien aujourd'hui déplacent et développent leurs investissements vers les énergies renouvelables, vers tout ce qu'on appelle la transition durable, quoi. Donc ils sont là-dessus et sur les services aussi. Maintenant, les Chinois sont très présents sur les services en Amérique du Sud. C'est nouveau. Donc, si vous voulez, il y a une dynamique qui fait que les États-Unis vont devoir coexister avec les Chinois s'ils veulent revenir. Mais attention, n'oublions pas une donnée, c'est que pour les États-Unis, encore une fois, la priorité commerciale, c'est quand même le Mexique et l'Amérique centrale. Rien que le Mexique, c'est 68% du commerce des États-Unis avec l'ensemble de l'Amérique latine. Hein, c'est-à-dire près des 2/3. La Colombie, le Brésil et, je crois, le Chili, c'est 15% à 3. Donc, vous voyez que les enjeux sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, les Sud-Américains ne pourront plus se passer de la relation qu'ils ont avec la Chine. La question pour eux, c'est comment ils vont l'équilibrer pour avoir moins d'asymétrie avec les Chinois. Et les États-Unis vont devoir faire avec ça, parce qu'ils ne prendront plus la main sur l'Amérique du Sud, du point de vue en tout cas économique et commercial, ce dont on parle instamment.
D'où la volonté de Joe Biden de mettre l'accent sur l'Amérique centrale, qui reste encore assez épargnée de l'emprise chinoise, et donc urgence à agir. Olivier Compagnon, on l'évoquait très rapidement, c'est la question de la Russie. Là aussi, une marge étroite pour Joe Biden, je pense, dans sa relation avec le Brésil, pour y revenir, parce que voilà, si le Brésil ne parvient à pas grand-chose avec Washington, l'intention a été clairement annoncée, je crois, de se tourner vers la Russie.
Oui, sans doute, parce que s'il y a bien une mauvaise nouvelle dans la défaite de Trump, c'est pour Bolsonaro, c'est sûr et certain, et il va falloir trouver de nouveaux partenaires. La Chine en est un de toute évidence, la Russie peut en être un également. Je me permets quand même de revenir un tout petit peu sur la question de l'Amazonie, parce que effectivement, Biden a insister sur l'importance planétaire, évidemment, bon, des choses que le président Macron d'ailleurs avait dites à peu près à l'identique il y a un an et demi ou deux ans, et des choses qui avaient été très mal reçues par l'ensemble de la classe politique brésilienne. Non seulement par le souverainisme, on va dire, de Bolsonaro, mais moi j'ai le souvenir de dialogues avec Dilma Rousseff, etc., qui avait longuement ironisé sur justement les propos de Macron, sur ce bien commun de la planète, qu'on n'était pas loin de vouloir internationaliser. Et Biden arrive avec un discours qui est un petit peu comparable et qui, à mon avis, est totalement inaudible au Brésil. Il y a évidemment une sensibilité amazonienne dans une partie de la classe politique et de la société civile brésilienne, le souhait de freiner les dynamiques qui sont promues aujourd'hui par le gouvernement Bolsonaro. Mais l'idée, je dirais, d'une mise sous tutelle, appelons ça comme on veut, de la région par je ne sais quelle puissance internationale est totalement irrecevable. Et là, je ne suis pas certain que le discours de Biden sur la question amazonienne puisse recueillir au fond beaucoup d'écho. Ça me paraît tout à fait essentiel à préciser sur cette question. Et par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Christophe sur le fait que parler d'une possible reconquête commerciale ou financière de l'Amérique du Sud par des États-Unis est totalement illusoire. Ce qui s'est passé depuis le début des années 2000 avec la Chine est irréversible, à moins d'une crise économique et financière profonde qui affecterait la Chine, auquel cas, évidemment, il faudrait trouver d'autres partenaires. Mais là, effectivement, je pense que la relation États-Unis-Amérique latine va fondamentalement se recentrer sur le Mexique, l'Amérique centrale, et l'arc caribéen, et que l'Amérique du Sud est déjà perdue, en quelque sorte, pour l'essentiel.
L'arc caribéen que j'avais oublié de mentionner. Alors, dernier aspect, le sommet des Amériques. Cette année, pour la première fois depuis sa première édition en 1994, il aura lieu à Miami. Il réunit les chefs d'État des 35 pays d'Amérique du Nord, centrale, sud et des Caraïbes. Donc, sommet qui se tiendra aux États-Unis à la fin de cette année. Célia Himmelfarb, peut-être on aura des précisions sur la vision nord-américaine sur l'Amérique latine.
Oui, bien sûr. Il y aura un clivage entre Trump et Biden par rapport au sommet. D'abord, Trump ne s'est pas rendu au sommet des Amériques, le dernier sommet des Amériques. Ça, c'est déjà très révélateur. Et Biden, certainement, il viendra. Et il y a certaines choses qui sont importantes du rapprochement. C'est l'Amérique aux Américains, mais dans le sens pas de la doctrine Monroe, mais une approximation qu'ils sont tous Américains, pas États-Unis, mais Américains. Et cette notion-là est très importante qu'il puisse être évoquée au sommet des Amériques.
Merci Célia.
Vous disiez.
Oui. Non, je suis obligée de vous interrompre.
Et
vous
non, il n'y a pas de souci.
Voilà, merci Célia Himmelfarb. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Isère à Grenoble, que vous êtes économiste, maître de conférence honoraire à Sciences Po, Grenoble, et membre du conseil d'orientation stratégique de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Merci aussi à Olivier Compagnon qui était avec nous par téléphone, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut des hautes études d'Amérique latine de l'Université Sorbonne Nouvelle et au Centre de recherche et de documentation des Amériques, le CREDA, également co-rédacteur en chef des Cahiers des Amériques. Et en studio avec moi, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et auteur, pour ce qui nous intéressait aujourd'hui, d'une note d'analyse pour le compte de l'AFD intitulée « États-Unis, Amérique latine, quelle perspective après l'élection de Joe Biden ». Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons armes nucléaires et sécurité stratégique. À demain. Vous écoutez.